The beat. The culture.
Une émission produite par Radio Campus Paris. The Beat, The Culture, c'est LA nouvelle émission qui va te faire découvrir l'univers du beatmaking et de la culture afro et diaspora en France. Un lundi sur 8 à 20h sur le 93.9 FM et en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Hello, hello, bienvenue sur The Beat, The Culture, épisode 2, le rendez-vous sur Radio Campus Paris où on parle beatmaking et culture afro-descendante. Je suis Justine, votre animatrice, créatrice et productrice de l'émission. Aujourd'hui, côté beatmaking, on part dans l'électropop avec la beatmakeuse Kelly Boy, accompagnée des artistes, ici Modesta et Contrebande. Et côté afro, on parle événements culturels afro. On recevra d'abord Badila Malongo pour nous parler du battle afro, représenté par la vice-présidente. Et ensuite, Vicky Vella nous parlera de la nuit de l'excellence africaine. The Beat, The Culture, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
The Beat, The Beat, The Beat.
Avant même que l'idée de l'émission de Beat the Culture n'existe, j'ai vu Kelly Boy pour la première fois à une table ronde organisée par la Loop Session en mars dernier. Les Loop Sessions, c'est des événements pour les beatmakers, beatmakers, artistes et amateuristes de musique. J'adore ces événements. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien sur ma page Instagram vers l'épisode de l'estival de 19h sur Radio Campus Paris. Parce que j'ai discuté avec elle, avec les trois super représentantes de la Loop Session Paris. Et c'était le 17 juillet dernier. Le sujet de la table ronde, lors de sa Loop Session, c'est où participait Kelly Boy, c'était « Beatmakereuse, un métier dans l'ombre ». Ce genre de sujet m'a inspiré d'ailleurs la création de cette émission, parce que pour moi, les beatmakers ont trop de talents qui méritent de sortir de l'ombre. Même si les beatmakeuses et les beatmakers, ils adorent rester dans l'ombre, surtout les beatmakeuses, parmi les talents qui devrait sortir de l'ombre, Kelly Boy. Et comme les beatmakers n'aiment pas sortir de l'ombre seuls, Kelly Boy est venu avec une petite clique, une crew, les artistes Ici Modesta et Contrebande. Faites du bruit !
Salut !
Bonsoir.
Ici, vous savez, on parle principalement beatmaking, composition musicale. On décortique le sujet pour vous de manière simple. Mais pour bien comprendre le beatmaking, il faut d'abord comprendre d'où viennent les artistes. À commencer par Contrebande. Contrebande, donc, c'est un duo qui est composé de Coaline et Mathilde.
Presque.
Ça aurait pu être incroyable.
J'adore, on change de prénom. Tu prends lequel, toi?
Franchement, on prend les lettres, on mélange, on arrive au bon.
Hein. Ouais.
C'est alors presque vas-y. Ça. On mélange. Caroline et Delphine.
Ouh, ah ouais.
Tu vois? Presque.
Caroline et Delphine, je ne sais pas d'où j'ai sorti les noms. Okay. Mais en tout cas, Caroline et Delphine, vous êtes quarantenaire et vous vous en cachez pas. Vous avez déjà sorti un son qui est produit par Kelly Boy et qui s'appelle 39 ans et demi. Et on va l'écouter tout à l'heure. La première question que j'ai pour vous, c'est déjà, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être aussi frontal sur le sujet de l'âge?
Frontal?
C'est pas ce qu'on nous dit en général quand on écoute nos chansons.
Ah ouais?
Non.
En tout cas pour celle-ci, pour ce titre-là.
Pourquoi frontal?
Bah parce que vous en parlez, le titre il s'appelle 39 ans et demi et ouais.
Moi j'irais tangentiel moi.
Tangentiel.
C'est sûr que ça a posé des bases. On aurait pu choisir vu que je produis aussi leurs autres morceaux avec ouais. elles. C'est vrai que ça aurait pu être un autre choix de lancement. Et c'est celui-là qui est ressorti. Donc, probablement que.
C'est vrai que frontal, dans notre jargon de psy, ça veut dire aucune retenue, pas de limite, et on dit les choses presque agressivement. Ou peut-être que t'as réagi au mot frontal. Pour nous, c'est très important, oui, d'assumer l'âge qu'on a.
Ouais.
Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie que ce soit le premier morceau qui sorte.
Ouais, c'est pour ça que vous l'avez choisi. Et d'ailleurs, tu mentionnes là à l'instant que ouais, vous êtes effectivement toutes les deux psy, vous parlez de langage de psy. Mais vous êtes aussi connue au lycée, apparemment. Oui. Et il s'avère que donc, vous êtes connue au lycée, vous êtes toutes les deux psy. Et vous avez décidé de vous lancer ensemble en musique. Dans quel cadre? Comment ça s'est fait et tout?
On a fait beaucoup de choses ensemble avec Caro depuis...
Toujours.
Longtemps.
17 plus.
Donc on a eu plein de projets en fait qui se sont succédés. On a monté un cabinet de psy ensemble quand on avait 25 ans.
Ah ouais.
On a fait faillite ensemble. On a rebossé ensemble. On a pris des cours de chant ensemble. Et puis on a décidé de créer des chansons ensemble. ça a été un peu la suite logique de plein de projets qui sont succédés. Puis une manière de parler alors qu'on passe beaucoup de temps à écouter les autres.
Mmh. Oui, on s'est beaucoup dit qu'autour de notre musique, on avait envie de prendre la parole. Que ce soit des choses qu'on avait envie de raconter de nous, mais aussi de ce qu'on entend.
Et je voyais un peu que dans vos textes, vous parlez généralement aussi de l'expérience d'être une femme. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que quand on a des mecs qui parlent de leur expérience d'être des hommes, enfin, tout simplement, on ne va pas forcément parler de textes engagés. Est-ce que vous avez l'impression aussi, est-ce que vous vous considérez comme des artistes engagés ou pas forcément?
Oui. Clairement.
Ouais, d'accord. Clairement. Est-ce que Kelly Boy, toi aussi, tu te considères comme une artiste engagée?
Oui, carrément, ouais. Après, je pense que c'est... Des fois, quand on pense artiste engagé, le premier truc auquel on va penser, c'est le contenu des textes. Mmh. Mais ça peut être de plein d'autres manières autour.
Ouais.
Donc, moi, je pense que... ça va se situer sur plein d'autres plans que ça.
J'imagine que tu mentionnes notamment le fait que les choix des artistes avec lesquels tu travailles, ça fait aussi partie de ton engagement.
Ouais, carrément, qui sont en fait exclusivement des femmes et des personnes queer.
Exact, ouais. Dans ton album à toi, Kelly Boy, on est plus sur des sons qui sont atmosphériques, un peu oniriques. Est-ce que tu prends du plaisir à sortir aussi de ta zone de confort en collaborant avec des artistes qui ont une vibe différente? J'ai l'impression, par exemple, que Contrebande a une vibe différente, donc c'est pour ça que je pose la question.
Ouais, tant que je m'y retrouve un peu quelque part, enfin qu'il y a un genre de terrain d'entre-deux en fait. Par exemple, les filles justement, quand elles sont arrivées, il y avait le côté assez 80s, pas mal de ce côté un peu les synthés et tout, tu vois. Et puis le rapport au texte en français, je bosse que sur quasiment que sur des projets francophones parce que j'aime vraiment bien. J'ai envie de défendre cette scène-là. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui se rapprochaient de trucs que je fais et après tu trouves un terrain au milieu des deux. Mais ouais, carrément, d'aller explorer d'autres trucs et tout. Après, j'avoue que je me lancerai pas sur du reggae, du jazz, des trucs vraiment loin. Mais tant que c'est quelque part entre la pop, le rap et l'électronique, go, ouais.
Ouais, et donc là, l'électronique pop, on s'y retrouve aussi avec Contrebande d'ailleurs. J'aimerais bien savoir comment s'est créée votre collaboration.
Allez,
je peux commencer.
Non, vas-y, si, ok, allez. Je fais le tout début. Moi,
début
de mon côté, je reçois un message improbable de j'avais des comptes à l'ancienne où je donnais des cours sur des trucs genre super prof et tout, tu vois, des trucs comme ça là.
Okay.
Et j'avais des comptes, j'avais jamais désactivé et tout, donc je reçois un message, tu sais, ça envoie sur mon tel ou je sais pas quoi. Oui, bonjour, genre quelqu'un cherche à vous contacter sur Superprof. Et là, je vois, oui, bonjour, nous, c'est Caroline et Delphine. On a un duo de
et pas
chansons.
Et Mathilde.
Mais ça fait le même effet, un peu binôme, chanson française. Et ouais, du coup, on voudrait, je sais pas, des cours d'Ableton, du MAO, un truc comme ça et tout. Et j'étais là, genre, what the fuck. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à moi qui ne sont pas directement, tu sais, des amis d'amis, d'un milieu bien spécifique et tout. Donc là, ça semblait assez hors réseau. Mais comme je suis toujours un peu en mode on teste, assez curieuse, et j'aime bien donner la chance aux choses et voir ça dit quoi, j'ai fait ok, passer au studio et on voit quoi.
Ah ouais, parce que Contrebande, ça produit un peu, ça pose des prods.
Ça arrive avec des maquettes
sur GarageBand,
avec des idées exploitées, donc on avait vraiment besoin de Kelly Boy, et on s'est retrouvés dans une cave toute noire. Avec Kelly Boy qui avait un accueil chaleureux mais sans plus, qui nous regardait avec un œil un peu...
De dos, beaucoup de dos.
Dubitatif. Mais on s'est apprivoisé et au bout de 3-4 rendez-vous, elle nous a dit « Go, les filles, on bosse ensemble
». Yes. C'était un peu Noël. On avait l'impression que Noël, le bac, c'était un peu, on passait un examen, quoi, un nouveau.
Ah ouais, d'accord. Et le go là, c'était la consécration de début de...
Oui, on a bu des bières.
début de la collab. À propos justement de votre collab, on va écouter le titre 39 ans et demi que Kelly Boy a produit.
J'ai 39 ans et demi, vertige, le grand carrefour, la rue de roue de la vie me vole en quart de tour. Je n'y comprends plus rien, je gagne, je perds. Je veux ni être celle de devant, ni celle de derrière. Les mademoiselles polies, les t'es belles pour ton âge.
les vôtres. Les rides au coin des yeux, je les préfère sur les autres.
Je n'y comprends plus rien. Je me trouve, je me perds. Je n'y comprends plus rien. Je me trouve, je me perds. Je n'y comprends plus rien. Je me trouve, je me perds. Je n'y comprends plus rien.
J'ai perdu de la valeur sur le marché de la meuf. Demain déjà mon corps touchera ses limites. Mais je gagne des dollars et je suis devenu chef. Je veux que tout s'arrête, je veux que tout s'arrête tout de suite.
.9, c'était 39 ans et demi de contrebande. Avant qu'on passe à Modesta, on voudrait aussi faire une petite dédicace. Enfin, je vous laisse faire la dédicace.
À Coraline et Mathilde.
C'est qu'on a retrouvé qui étaient Coraline et Mathilde, qui sont donc des personnes qui ont vraiment agi pour le projet, à savoir la réal et la maquilleuse des deux premiers clips, 39 ans et demi et Promis. Voilà, on a résolu ce mystère de crédit.
Donc merci Coraline et Mathilde d'avoir travaillé avec Caroline et Delphine de Contrebande. Ouais. Et maintenant, donc, Kelly Boy, tu es venue aussi avec Ici Modesta. Donc, Ici Modesta, toi, de ton côté, tu es une artiste qui est empruntée d'influence pop, rap, mais qui reste dans une esthétique un peu ambiante, électro, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans l'identité de Kelly Boy. Du coup, c'est quoi pour toi, d'ailleurs, ta définition du genre ambiante ?
Waouh, la question piège. Non mais en plus je suis pas spécialiste. En fait, il se trouve que la partie ambiante du projet, enfin de l'esthétique, elle est liée là sur cette, enfin sur l'EP qui arrive, qui va sortir le 24 novembre. Elle est liée à la présence d'un autre producteur qui s'appelle Maxime Gérifresse et qui lui fait beaucoup d'ambiante et du coup, enfin qui est, enfin en fait c'est un artiste d'ambiance, okay. D'ambiante de base. Et en fait, du coup, c'est quelqu'un qui va travailler énormément les textures des synthétiseurs. Mmh. Qui a une esthétique qui est beaucoup plus minimaliste que celle de Elena. Mmh. Du coup, je prends chez eux des, enfin dans le cadre de cette EP, des éléments, enfin même assez contradictoires finalement, mais qui se rejoignent bien dans le cadre du projet. Et du coup, la partie ambiante de l'esthétique, elle vient de Maxime et notamment sur le travail, ouais, des textures en fait.
D'accord. Voilà. T'as mentionné donc Elena qui est Kelly Boy. Tu sors bientôt, oui, ici pardon. Modesta, ton EP qui s'appelle Des trucs dans le ciel. Tout à l'heure, on va écouter un extrait. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de raconter dans cette EP ?
Alors, je précise que l'extrait, c'est Etna qui sort aujourd'hui sur toutes les plateformes. Donc voilà, enfin qui est sorti à minuit. Donc voilà. Si...
Yes.
Qu'est-ce que cette EP raconte ? Cette EP, il raconte de manière assez ésotérique. Et
poétique.
Poétique, oui. En fait, mon parcours d'émancipation en tant que personne queer, enfin lesbienne, on peut le dire, avec toute la complexité qui va avec. Et je pense que ce que j'ai eu envie d'amener dans cette EP, enfin en termes de discours, c'est toute l'ambivalence émotionnelle qui peut être liée au sentiment de révolte, au fait de trouver une communauté, que ça se passe pas forcément toujours bien au sein de cette communauté. Et en fait, j'essaye un petit peu de casser le discours. Bon, pour le coup, c'est pas une écriture qui est très frontale, mais moi, ce que je projette dans cette EP, c'est de casser un peu le discours d'une vision de la minorité queer comme... on est en mode arc-en-ciel, on a reconstruit notre, on vit notre meilleure vie entre nous, etc. Non, en fait, j'essaye de sortir d'un discours un peu queerwashing hyper lisse et de raconter de l'intérieur toute la complexité avec laquelle ça vient. Après, voilà, une fois de plus, ça apparaît de manière assez détournée dans mes textes, mais moi, c'est l'intention que j'ai mis dans le projet.
Et du coup, comment s'est passé, pareil, ta collab avec Kelly Boy, comment s'est passé votre collab sur l'EP?
Eh bien, avec Kelly Boy, moi, ça remonte à plus longtemps, parce qu'on s'est rencontrés il y a 5 ans maintenant, je pense, au moins. Et en fait, elle m'avait... Enfin, c'est un peu elle qui m'a décoincé mon rapport à la composition et au fait d'assumer que je pouvais avoir un rôle, en fait, d'artiste et de composition. Et on avait commencé à sortir des morceaux ensemble sous un autre blaze qui s'appelait Un beauté, ma chérie, qui était un projet à moi, mais que j'avais... enfin que j'ai lancé trop vite sans savoir ce que c'était un projet, et finalement après j'ai eu besoin de reprendre du temps pour moi, du coup j'ai arrêté ce projet là et je suis revenue du coup cette année avec un nouveau projet sur lequel donc Elena a produit la moitié des tracks, je crois, c'est un truc comme ça, non, et fait la réal dans le sens où comme il y avait l'intervention aussi d'un autre producteur, en gros, elle s'est chargée de faire, de créer une forme de cohérence des timbres, des sonorités. Parfois, j'arrivais avec une prod, bah, par exemple, que Maxime avait beaucoup avancé dans une esthétique. Et Elena, elle va m'aider à trouver, par exemple, la bonne snare ou le bon kick pour qu'en fait, c'est en termes de sonorité, on ne s'éloigne pas trop des autres tracks qu'elle avait produits, elle. Et après, il y a eu un travail de mix aussi. Donc, en gros, non seulement de produire certaines tracks, mais en plus de créer... une cohérence globale à l'EP et qui a un rôle hyper important, qui, bah, en fait, qui est au-delà du beatmaking, qui a un rôle de réel, en fait. Donc, réel au sens musical du terme. Et voilà.
Et les snares et les kicks que tu as mentionné, qui sont donc des instruments qu'on inclut dans les prods.
Ouais.
Kelly Boy, du coup... toi, est-ce que tu envisages différemment un peu le rôle de, je sais pas, d'arrangeur, de réalisateur à celui de beatmaker ? Est-ce que tu travailles différemment ?
Ouais, grave, parce que pour moi, le mot beatmaker, il vient vraiment de l'univers du hip-hop et de la vision qu'on a du hip-hop à l'ancienne, genre de bosser avec des samples, avec tout ce côté analogique et tout. Pour moi, c'est un peu l'héritage de ça et c'est très lié à la culture rap. C'est pour ça que moi, je préfère le terme, en ce qui me concerne, de compositrice ou de productrice, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus large. Je fais des choses de plein d'autres esthétiques. Et mes compétences, c'est pas d'aller chercher des samples et de les mettre sur des batteries. C'est aussi bien composer plein de types d'instruments qui viennent aussi plus d'une formation classique, du rock. Donc, je trouve que, ouais, c'est plus, pour moi, les mots compositrice, productrice sont plus exactes et plus englobants si on ne se situe pas exactement dans l'héritage boom-bap.
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pour ça que j'étais contente de pouvoir t'inviter aussi à cette émission, parce que je voulais montrer les différentes couleurs de ce que c'était finalement le beatmaking. Donc en fait, la composition musicale, tous les beatmakers sont des compositeurs, des compositrices. Et je suis contente que tu sois là pour représenter en fait un autre style. Quand on pense beatmaking, on pense rap. Et il n'y a vraiment pas que ça. D'ailleurs, le premier épisode, c'était un beatmaker et un artiste de R&B. Et j'ai vraiment envie de diversifier les genres pour montrer que voilà, la production musicale, c'est dans tous les genres.
Bah, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde bosse un peu pareil, même dans le classique ou la musique de film. Aujourd'hui, les gens sont derrière des ordi avec des banques préenregistrées de cordes et tout. Donc en fait, aujourd'hui, quel que soit le style que tu fais, on a des méthodes de travail qui sont hyper informatisées et hyper similaires. Et du coup, voilà, dans ce cadre-là, en fait, d'ailleurs, ce qu'on appelle les tie beats, les prods déjà préfabriqués que tu peux acheter comme ça ou t'entraîner dessus sur YouTube. Aujourd'hui, tu peux mettre Thai Beat et Hyper Pop, Thai Beat, Jazzy, Soul. Enfin, tu vas pouvoir trouver des prods préfabriqués dans tous les styles, ce qui montre bien que voilà, le beatmaking, c'est complètement élargi et dissous dans plein d'autres trucs.
Voilà, ouais. Et puis ça permet aussi de se dire que au final, c'est comme se lancer sur un nouvel instrument. Donc, quel que soit le genre et la sensibilité musicale, bah, en fait, on peut juste y aller. On peut juste aller sur GarageBand. On peut juste aller sur FL Studio, la version gratuite. Ouh, craqué. et se lancer, quelle que soit la sensibilité musicale. C'est ça que je kiffe aussi, quoi.
Carrément. Bah, d'ailleurs, là, toutes les personnes présentes, en fait, font toutes au moins un certain degré de la production musicale, en fait, avec des outils différents, des niveaux différents, mais... clairement cette idée de je veux lancer un projet, je fabrique de la musique. Donc quelque part, il y a une part de beatmaking là-dedans qui est mise en place.
Ouais, et si Modesta, tu composes aussi ?
Oui, enfin je pré-prod et je pré-prod de plus en plus. Et non, mais ce que je voulais dire, enfin en rebondissant sur ce que vous étiez en train de... Sur quoi vous étiez en train de changer, pardon, je suis fatiguée, je pense que ça s'entend. C'est que de plus en plus, en fait, il y a une assistance à la prod, je trouve, dans les logiciels, etc., qui fait que quand même, moi, par exemple, depuis que j'ai découvert Splice, Splice, donc, qui est une banque de samples, en fait, c'est une banque de samples en ligne qu'on peut télécharger au prix d'un 9 euros par mois. Enfin, c'est un abonnement que tu prends et en fait, tu peux télécharger un certain nombre de samples par mois. Et en fait, tu peux travailler des matières qui sont déjà, enfin, qui sont hyper bien produites, qui sont mixées, masterisées, etc. Et ça ouvre un champ des possibles qui est assez fou. Et là, on m'a dit il n'y a pas longtemps que maintenant, Splice, ils te suggéraient carrément des samples de leurs propres données qui allaient avec ceux que tu avais choisi. Du coup, t'es genre complètement assisté dans la production. Après, bon, là, ça rentre un peu dans des débats métaphysiques de qu'est-ce que la compo, dans quelle mesure ça dénature l'acte artistique, etc. Moi, j'ai tendance à penser que ça le dénature pas, c'est juste des nouvelles manières de faire et que ça démocratise vachement le rapport à la prod. Et moi, je sais que, enfin, maintenant, c'est vrai que même avec les tutos, etc., si on se bouge un peu, il y a quand même moyen de poser des bonnes bases de... Enfin, moi, la prod, en fait, ça me sert surtout à définir mon esthétique de manière... Enfin, pour guider, en fait, le producteur ou la productrice après en studio, parce que je vais amener des matières qui sont très spécifiques. Et derrière, évidemment, toutes les automations, les filtres, etc., ben ça, c'est de la gestion et artistique et technique que j'ai pas forcément. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même en main plein d'outils pour poser des bases qui définissent déjà très fortement un propos artistique et qui va permettre derrière à la productrice ou au producteur de s'approprier, de comprendre en fait là où on veut aller et de faire un truc clean à partir de ça. Et moi, c'est souvent ce qui se passe quand je suis en studio. Voilà.
Bah super, écoute, tout de suite, on va écouter du coup le premier single de ton EP, Etna, et puis on revient à l'interview qui est sorti aujourd'hui.
Qui est le deuxième single, il y a eu Sous les... Ah.
Vas-y, oui, il y a déjà eu
Sous les... le deuxième single, ouais,
qui Penser en crabe sous nos crânes. Nos histoires sont nerveuses, je cherche un pyromane. Terre brûlée sous nos langues cyniques, j'approche la frontière, tu m'attaques.
Modesta, qui est sorti aujourd'hui sur toutes les plateformes. Vous êtes sur Radio Campus Paris, sur l'émission The Beat The Making. The Beat The Culture. tout ici, vous avez le point commun d'avoir participé à l'album Pokédex de Kelly Boy. Est-ce que vous voulez nous donner vos impressions respectives sur l'album ?
Waouh !
Ah ouais.
Bah déjà, ici, Modesta, elle était tellement choquée par le parti pris esthétique de ma cover qu'elle a dit « Wesh, moi, j'apparais pas là-dedans. Hein. »
Oui, bon, voilà.
Je me désolidarise.
On est tout à fait honnête.
Et t'as fait
avec...
un tube.
avec Elena, on a des, beaucoup de points de convergence et quelques points de grosses divergences, notamment sur les choix visuels. voilà.
Tu veux nous dire quelque chose sur le choix visuel?
Vas-y.
Pardon ? Tu veux nous dire quelque chose sur le choix visuel, justement ?
Oui, parle-en.
Ah oui, parce que comme on est à la radio, donc la pochette de mon album Pokédex, c'est une... J'ai de manière générale une esthétique très tuning, très fluo, très sport extrême, etc. Et c'est une pochette qui fait référence à toutes mes influences du milieu, notamment des jeux vidéo et tout ce qui peut aller comme association esthétique. Voilà, donc tous les curseurs sont poussés au max, je vous laisse aller constater par vous-même.
D'ailleurs, je vais poser la question bateau, mais en vrai, ça m'intrigue. Pourquoi tu l'as appelé Pokédex ?
C'est une référence à Pokémon, bien sûr, j'ai besoin d'expliquer. Et d'ailleurs, il y a des feintes, parce que les cartes ne sont pas des cartes Pokémon, mais des cartes Yu-Gi-Oh! Et le tour, c'est une référence plutôt à Nintendo. Enfin, il y a en fait un ensemble de codes, c'est pas qu'un seul truc.
C'est une pochette d'Eve.
Et en fait, j'aimais bien, parce que moi, j'ai été extrêmement influencée, fascinée par Pokémon et beaucoup d'autres trucs qui découlent cette génération-là, mais vraiment ça particulièrement. Et du coup, le Pokédex dans Pokémon, ça permet de répertorier toutes les créatures qu'on rencontre, etc., avec leurs skills, leurs particularités. Et du coup, j'avais un peu l'impression de faire la même chose en présentant plein d'artistes, comme si c'était toutes mes petites trouvailles dans mes petites Pokéballs, quoi. Voilà.
J'adore. En vrai, du coup, je comprends beaucoup mieux le concept de l'album aussi. Et d'ailleurs, pourquoi tu tenais à faire ton album ? Parce que c'est quelque chose qu'on voit peu chez, je sais pas, les producteurs, les beatmakers.
Ouais, bah en fait, je pense que ça découle de plusieurs trucs. De un, moi, je viens plus d'un parcours artistique solo, en fait. Et après, je me suis mis à bosser pour des gens. Mais du coup, la proposition, elle est venue dans ce sens-là. Donc déjà, c'est un paramètre. Et l'autre paramètre, c'est que moi, ça m'intéresse beaucoup pour des raisons artistiques, politiques, etc., d'être à des endroits un peu innovants, d'être attentive à ce qui change, ce qui se fait de nouveau, etc. Et être à des endroits où les gens ne sont pas. j'avais remarqué que, bah, notamment dans la prod, justement, il y a très peu de... Déjà, c'est globalement des producteurs, ce milieu, qui font des albums. Et je m'étais dit, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas de productrice que je connaisse, en tout cas, qui aurait fait une proposition d'album équivalent à, je ne sais pas, ce qu'a fait Midsizer ou quoi. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que ça existe. Et d'autant plus, ça n'a pas été fait. Je trouve ça d'autant plus challengeant et cool.
Bah ouais.
Du coup, je me suis dit, whatever, on va voir qui, quoi, comment. Faut que je fasse un truc qui soit un format long où j'invite des gens.
Ouais. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, tu as sorti une version instrumentale. C'était quoi l'idée derrière, après, de ressortir une version instrumentale ?
Ça s'est fait un peu sur un coup de tête, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y avait des gens qui voulaient avoir accès aux versions que la musique. Aussi parce qu'il y a des gens qui écoutent aussi ma musique dans une perspective de DJing, de donner des cours de danse, de je sais pas, d'autres perspectives, de s'entraîner dessus à rapper, j'en sais rien. Et pour qu'elle puisse exister aussi dans ces versions-là, parce que je trouve que c'est aussi c'est une autre proposition, en fait, sans voix, et qui permet de vraiment bien capter mon univers d'une autre manière. Et puis, t'as pas envie d'écouter de la musique vocale au même moment, dans les mêmes contextes que la musique instrumentale. Et puis, je vais les exploiter de cette manière-là dans mon nouveau live, en partie. Du coup, voilà.
Et en janvier, je crois 2024, c'est ça, tu feras un nouveau live solo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour l'instant ?
Eh ben, c'est après avoir pas mal hésité, parce que ça fait au moins 3 ans que j'ai plus de live à moi, et je me suis dit que j'allais rassembler plein de trucs, en fait, parce que j'ai déjà fait plein de trucs, dont des tas de matières dans tous les sens, sorties, pas sorties, plus ou moins exposées ou pas, et je me dis, j'ai déjà envie de faire vivre toute cette matière-là qui existe. Et en fait, c'est un live qui est pensé comme un DJ set ou une mixtape, donc ça se coupe pas. Et ça réunit des morceaux à moi, des trucs de l'album. Là, je suis en train encore de réfléchir à des détails, mais peut-être aussi du discours, vraiment une espèce de grande matière sonore. Vraiment pensée comme une mixtape, et qui va peut-être d'ailleurs changer d'un live à l'autre, où il n'y aura pas exactement toujours la même chose, avec le même genre de flexibilité qu'un DJ set. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une guitare, un clavier, un micro avec des effets, et Ableton pour lancer tous les backing tracks. Et à partir de là, bah, faut venir voir. Et probablement, quand ce sera possible, du visuel en fond de scène aussi.
Et parce que tu utilises Ableton, toi, comme...
Uniquement, de A à Z, et depuis très longtemps, ouais.
Depuis très longtemps ? T'avais commencé par quoi ?
J'avais, il y a vraiment longtemps, Reaper, avant, ah oui. qui était complètement que en anglais et c'était assez hostile. J'ai fait 2-3 bidouilles de trucs sur Audacity. Et avant, bah, sinon, j'étais plus dans les vrais instruments, les groupes et tout. Donc, on allait enregistrer dans des vrais studios, j'enregistrais des trucs au Zoom. Enfin, voilà, mais à partir du moment où ça commençait à être sérieux, j'étais sur Ableton.
Ok. Et donc, puis rester sur Ableton. En même temps, pour le live et pour ce que tu veux en faire, c'est totalement compréhensible.
Ouais, quand tu fais de la prod et du live, c'est vraiment le truc le plus cohérent, quoi.
Couleur du chaos ne fait pas partie de Pokédex. Est-ce que tu peux nous en dire un mot dessus, vu que c'est la chanson que tu as choisi de diffuser ?
Grave. Eh ben, ça, c'est un track vraiment... c'est un track solo qui sera dans le live. Et où il y a très peu de paroles, c'est plus une ambiance, un truc, comme tu disais au début, un peu onirique, atmosphérique, qui sont les trucs que moi j'aime bien faire, moi toute seule. Et il y a un clip d'ailleurs qui va avec, qui est pas mal sur les toits de Paris, enfermé aussi, qui correspond un peu à la période du Covid. Et j'ai choisi ce titre parce que, ce qui m'évoque est, voilà, fait écho pour moi à des choses que m'évoque l'actualité du moment. Voilà.
Ok, bon, on l'écoute tout de suite alors, Couleur du chaos sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur The Beat, The Culture, sur Radio Campus Paris. Avant qu'on conclue cette émission, est-ce que vous pouvez chacune nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement et balancer vos réseaux sociaux ? Allez-y.
Nous, on est en train de terminer notre EP, on espère pour la fin de l'année. On ne dit plus trop de dates parce que ça prend du temps.
Ok, fin 2023.
Ouais, max.
Max.
Et on a un Instagram, Contrebande Musique. Je regarde Kelly Boy parce que je suis jamais sûre.
Et ouais, et du coup, bah, y a les deux clips de 39 ans et demi et de Promis qui sont déjà dispo sur YouTube. Et voilà.
Et c'est Modesta.
Ouais, alors ben, moi du coup j'ai sorti mon deuxième single Etna aujourd'hui sur toutes les plateformes accompagnées d'un clip réalisé d'ailleurs par la même réal qui travaille aussi avec les filles, donc qui s'appelle Coraline Benetti. Et mon EP sortira donc en entier le 24 novembre sur toutes les plateformes. Et voilà, n'hésitez pas à les streamer au max. Et oui, mon Instagram c'est ici, ICI. Tiré du bas, Modesta.
C'est noté, voilà. Merci.
Merci à toi.
Et qu'est-ce que je peux dire d'intéressant si j'ai, oui, voilà, j'ai monté une soirée récemment qui s'appelle la Chrysalide, qui a lieu à chaque fois au Hasard Ludique, et on en est déjà à l'épisode numéro 3. Et ceci est une exclue, du coup, la 3 aura lieu le 20 janvier au Hasard Ludique. Oups. Je n'ai moi-même pas la prog définitive, donc je ne pourrais pas la spoiler, mais il s'agit toujours de mettre en avant des projets de l'idée par des femmes, des personnes queer, des projets alternatifs, pop, rap, électro, principalement francophone, dans un esprit cool. On est toujours sur ce même genre de vibe, donc voilà, réservez votre 20 janvier. Et probablement que je vais faire des petits trucs dessus aussi sur cette date. Voilà.
Yes, merci. J'espère que vous avez noté toutes les dates. En tout cas, merci à vous toutes d'être venues. Ici Modesta, Contrebande et Kelly Boy. J'espère merci que vous avez passé
merci
un bon moment.
Merci, oui, merci toi, beaucoup. C'était trop cool.
Vous êtes sur The Beat The Culture sur Radio Campus Paris. The Culture. The Culture. The Culture. Le Battle Afro International, c'est cet événement qui s'est déroulé le 29 octobre dernier à La Cigale quand même. C'est énorme dans tous les sens du terme. Salut Badila.
Salut, j'espère que tu vas bien Justine.
Ben merci, j'espère que tu vas bien aussi, même si le temps s'est rafraîchi et que tout le monde tombe un petit peu malade en ce moment.
tout à fait.
Donc cette année, alors pour le Battle Afro International, c'était la 7e édition. Badila, comment tu te sens après cette édition de folie? Est-ce que le stress et l'euphorie sont passés?
Le stress est passé, c'est sûr. Enchantée. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation pour parler du Battle Afro à votre radio. Alors, un gros événement, surtout un grand retour, parce que ça faisait notre dernière édition datée de 2013. Donc vraiment, on est dans, voilà, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait la compétition. Donc un événement qui s'est très bien passé, un public ravi, des participants ravis et l'équipe nous-mêmes, bah, on l'a fait. Voilà, le stress est retombé, mais on est encore dans l'excitation de tout ce que ça a généré, parce qu'on a l'impression que ça va être un début encore, un nouveau départ.
Pourquoi avoir décidé de lancer ce Battle Afro, justement?
En fait, Battle Afro, il faut savoir que ça existe. La première édition a eu lieu en 2008.
Ah oui.
Ça existe depuis 2008 et on l'a fait chaque année. Donc, il y a eu 6 éditions. Et puis après, on a souhaité faire une pause qu'on ne pensait pas aussi longue pour peut-être réorienter le projet d'une part, lui donner une dimension plus internationale. Donc, on n'a plus fait la compétition, mais on a continué à avoir des actions en se greffant à d'autres organisations, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et sur certains événements liés à la danse aussi en France. Donc, tout ce temps-là, on l'a pris d'une part pour réfléchir à la réorientation du projet et aussi parce que du point de vue personnel, chacun avait un peu avancé professionnellement du fait que l'équipe s'est reformée à l'occasion de ce retour.
Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs un peu plus sur les types d'actions qui sont déroulées entre cette période-là, du coup de 2013 à aujourd'hui?
Alors de 2013 à aujourd'hui, on s'est greffé à la Foire de Paris, par exemple, lorsqu'ils nous demandaient d'avoir de pratiquer des shows artistiques, on fournissait des artistes, des danseurs. Pour ces événements-là, donc il y a eu la Foire de Paris, il y a eu des événements liés à l'Afrique, en tout cas sur des thèmes de l'Afrique, et des masterclass aussi, essentiellement.
Battle Afro, c'est le premier festival des danses afro-urbaines. Comment est-ce que de votre côté, vous avez ressenti, donc en 2008 ou même avant, qu'il y avait un besoin pour cette culture d'être représentée, et particulièrement sous le format de battle?
En fait, ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'on avait une association déjà qui s'appelait Master and Platinum. Et dans cette association, on organisait tout type d'événements. C'était vraiment de l'événementiel. donc comme des voyages pour aller au Carnaval de Londres, mais on savait que ça allait être axé sur la culture afro, d'une part de par les origines des membres, et puis le battle est venu du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a une grosse communauté quand même africaine en France, hein, la diaspora, et que nos danses, bah, nos cultures n'étaient pas assez valorisées en comparaison avec le hip-hop, qui lui a explosé à une dimension voilà, plus internationale, c'est connu. On s'est dit, mais il y a toute cette population. Et notre accroche, c'était le partage des cultures et la base de l'ouverture. Donc on se disait, bah, en faisant connaître aussi nos cultures à l'autre, ça permet de créer une interculturalité, excusez-moi, et voilà, de brasser les cultures, les mélanges. C'est-à-dire que nous, on vous propose de découvrir notre culture à travers la danse, mais on peut aussi vous apprendre à danser. C'est vraiment un partage. C'est de là qu'il est venu, surtout en comparaison avec le hip-hop, je dirais.
Oui, c'est vrai que le cœur, en fait, c'est les battles, mais il y a aussi ces moments de masterclass, de partage, d'apprentissage qu'on entend pendant le battle, enfin, à quel on assiste, en fait, pendant le battle afro. Et tu parlais d'ailleurs de la différence un peu de valorisation en France entre le hip-hop et l'afro. Et les danses afro, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas, depuis un an, là, deux ans, il y a une explosion un peu des danses afro sur TikTok. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi dans vos événements, cette espèce d'engouement vers les danses afro, justement ?
Bon, on l'a ressenti parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on a lancé nos premières éditions, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, voilà, toutes ces vidéos, mais... Voilà, la danse africaine était quand même dans certains milieux bien valorisée, bien étendue. Les réseaux sociaux sont juste venus amener de la visibilité et surtout montrer que la danse africaine, en fait, tout le monde peut se l'approprier. Mm-hmm. Elle est au carrefour de différentes cultures. Mais aujourd'hui, si vous suivez justement dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les pays asiatiques, dans certains pays du Maghreb, en France, en Europe... En fait, toutes les nationalités s'y sont mises, en fait.
Et ouais, c'est ça qui est, énorme. Ça, c'est vraiment globalisé, quoi.
Alors, c'est globalisé, tout à fait.
Alors moi, pour le coup, j'ai eu vraiment l'énorme plaisir d'assister à cette dernière édition à la Cigale et l'ambiance était vraiment là. Je vais vous passer un petit extrait sonore de l'ambiance que les auditeurs puissent capter un petit peu.
Ah, les absents ont toujours tort, mais allez-y.
Grosse ambiance, comme on peut l'entendre.
Ambiance.
Qu'est-ce que ça t'évoque d'écouter ça ? Parce que moi, là, j'avoue, j'étais en train de danser sur ma chaise. Gabrielle, la réalisatrice, peut témoigner.
Mais en fait, c'est difficile en tant qu'organisateur, si tu veux, parce que ce n'est pas un événement. C'est vrai qu'on a vécu l'ambiance, mais c'est un travail de longue haleine.
Oui.
Surtout que là, on a fait un nouveau format avec notre retour. Ça veut dire que le Battle Afro s'est passé sur 3 jours.
Ah.
Il y a eu le colloque le vendredi 27, un colloque sur l'histoire des danses afro et comment un danseur aujourd'hui peut se professionnaliser et vivre de son métier. C'était le vendredi. Ensuite, le samedi, il y a eu les masterclass. Et le dimanche, voilà, le grand spectacle. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'organisateur, c'est un travail de longue haleine. Donc on est plus côté backstage. Mais quand on voit l'ambiance, qu'on entend, voilà, comment ça... On se dit, on leur a manqué, en fait.
Oui, c'est ça.
On leur a manqué. C'est un événement de cette envergure qui met en lumière et qui valorise les danses afro. Bah, ça a manqué, finalement, au public qui a répondu présent. Et on les remercie chaleureusement.
Ça a manqué et je trouve que cet événement-là est revenu vraiment au bon moment dans le paysage culturel actuel en France. Et d'ailleurs, qu'on parle bien des danses afro et pas de la danse afro. Pour un auditeur, il y a plusieurs danses entre le kizomba, le coupé décalé, shaku shaku, azonto, ndombolo. Il y a vraiment une multiplicité quoi, des danses afro qu'on retrouve là sur scène. Est-ce que pour le battle afro, c'était volontaire d'avoir une compétition qui soit finalement pluridisciplinaire et pas centrée sur un genre de danse?
Oui, parce que ça l'a toujours été depuis les débuts. En fait, la danse afro, si je puis dire, c'est la génitrice de toutes les danses et même des danses urbaines. On sait qu'elle a influencé beaucoup de mouvements de danse. Et l'Afrique, bah, c'est un continent. Et à l'intérieur de tous ces pays aussi, en fonction des régions, les danses ne sont pas pareilles. Alors on ne peut pas retranscrire ou représenter, mettre en lumière toutes les danses, par exemple, du Cameroun, du Congo, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, mais au moins faire un brassage de tout ça et que ça se retrouve sur scène, en fait. Donc depuis le début, c'est notre souhait, c'est notre volonté, parce qu'on est sur des danses afro, comme je disais, mais c'est autant les mouvements qui sont nés aux États-Unis, dans les Caraïbes, tu vois.
Ouais.
C'est vraiment, comme je dis, la génitrice de beaucoup de danses, la danse afro.
Mais en tout cas, c'était vraiment énorme et beau de voir que cet événement-là se passait à la Cigale. Et pourtant, en mon sens, le battle afro gagne à être encore plus connu. Du coup, quelles sont les futures ambitions du battle afro?
Alors, les futures ambitions du battle afro, là, c'est un retour. Donc, c'est vrai que c'est un retour réussi de notre point de vue et des retours, en fait, qu'on peut avoir, même si dans tout ce qui est événementiel, il y a toujours des axes à améliorer. Mais en tout cas, pour nous, c'est un retour réussi, cette septième édition. Donc, on prépare déjà la huitième. Hein, on ne s'arrête pas comme... Je te disais tout à l'heure, c'est le début, c'est que le début en fait. C'est un retour, mais un début aussi. Donc, on va être fidèle à notre vision, continuer à faire découvrir en fait les multifacettes des danses africaines et urbaines, et aussi cette dimension éducative, parce qu'à travers cet événement, certes, c'est la danse, c'est la fête, c'est la valorisation de la culture, mais aussi montrer qu'on peut y inculquer du leadership, responsabiliser les jeunes et leur assurer aussi de la confiance en soi, parce que monter sur une scène aussi grande que la Cigale, devant autant de public, il y a un comportement à avoir, une gestuelle, en sachant qu'elle est membre du jury aussi. Donc continuer dans cette vision-là et toucher l'Afrique, parce que quand même, même si ça part de là-bas, on voudrait que cette compétition se passe sur le continent.
Et ce sera vraiment, vraiment beau à voir. Je te remercie. Je vais te demander si tu as un dernier mot pour la fin. En fait, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vos événements ou vos réseaux sociaux?
Alors, le mot de la fin, ce serait de nous suivre, de nous soutenir. On a une page Instagram Battle Afro, on a une page Facebook, mais aussi de ce que j'ai oublié, que je souhaite rajouter, qui est important, c'est que cet événement, il tourne autour de tout ce que j'ai expliqué, mais là aussi une dimension de solidarité. C'est-à-dire qu'à chaque événement, on soutient une cause, une association, et l'argent que l'on retire de la vente des places des billets, ben, sert à soutenir une action solidaire. Le président Cédric Sitade-Bagé s'est rendu dès le 6 novembre au Bénin. On soutient un orphelinat, Amour Divin. On soutient la présidente à faire que son orphelinat puisse accueillir plus d'enfants, qu'elle ait plus de moyens. Et cet argent aussi sert à ça. Donc on a cette dimension culturelle, partage et solidarité. Voilà ce que j'aimerais que les gens retiennent, qu'en nous soutenant, ils soutiennent aussi les associations qu'on soutient, comme Zéro Palu, parce qu'on soutient des associations en France et en Afrique, toujours pour faire le lien entre les cultures. Donc, ce sera mon dernier mot. Soutenez-nous, n'hésitez pas à nous contacter via nos pages si vous voulez adhérer à l'association et faire partie de cette belle aventure.
Merci beaucoup, Badila Malonga, vous l'avez entendu ici. Partage et solidarité des cultures afrodescendantes. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était Badila Malonga, vice-présidente du Battle Afro International. Et puis tout à l'heure, nous allons retrouver Vicky Vella qui nous parlera elle aussi d'un événement qui fait la promotion des cultures afrodescendantes en France.
Merci.
Wendy's Production. Honoré Nguetang. Ali Sexy La Lionne. Je suis là pour tout gâter. Tout gâter. Maman Lady Ponce. Bisous là-bas. Tout gâter. Mon ami, oh, ce n'est pas gratuit. Oh, oh, oh. Tu veux voir là, c'est l'argent. Tu veux toucher, c'est l'argent. Tu veux goûter, c'est l'argent. Mmh, tu veux manger, c'est l'argent. La beauté d'un homme se trouve dans sa poche. Le vrai amour n'existe plus, arrête de rêver.
C'est pas pour l'homme, faut pas trop t'aimer.
Toi tu n'as rien, mais c'est toi qui veux manger le piment.
C'est pas pour l'homme, faut pas trop t'aimer.
Les femmes de l'air, pour les avoir, faut les bougnac. Mon ami, oh, Hassan Hayek, ce n'est pas gratuit. Oh, oh, oh. Tu veux voir là, c'est l'argent.
Et c'est l'argent de Alice Sexy La Lionne. C'est un son qui est tout particulier pour notre prochaine invitée, Vicky Ivella, puisque c'est elle qui l'a choisi. Vicky, t'es en ligne avec nous, salut.
Salut, salut.
Salut Vicky, bah écoute, t'es venue à nous parler de la prochaine édition d'un événement, la Nuit de l'Excellence Africaine. Mais d'abord, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce son, c'est l'argent?
Alors, pourquoi cet artiste et pourquoi cette chanson? Donc voilà, c'est une artiste qui est talentueuse dans la danse. Et puis, pourquoi l'argent? Tout simplement parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, en fait. En fait, tout part à partir d'un intérêt, malheureusement.
Mmh.
Voilà. Donc, c'est ce que résume la chanson.
C'est ce que dit la chanson et tout est dit dans une bonne ambiance. On est venu parler aujourd'hui de la Nuit de l'Excellence Africaine qui sera ce vendredi 17 novembre et c'est annoncé comme la plus grande soirée de remise de trophées africains qui arrive enfin à Paris. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà? Enfin à Paris, c'était où avant?
C'était nulle part. C'était nulle part. C'est une première édition.
Ah ouais, première édition, grosse exclue. Donc on est vraiment exactement sur la première de l'événement, quoi.
Exactement.
Oh, c'est exactement énorme.
Oui, c'est un grand événement, c'est du lourd.
C'est du lourd. Qu'est-ce qui nous attend alors pour cet événement?
Alors qu'est-ce qui nous attend pour cet événement? On rassemble en fait chaque pays africain pour valoriser en fait le continent africain, les richesses culturelles.
Mmh.
Que ce soit dans l'industrie du cinéma, de la musique, de la mode, des médias,
ouais,
un peu de tout. Donc on est là pour valoriser la culture africaine.
Mmh.
Voilà. Donc il y aura le Burkina Faso qui sera représenté, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Kenya, le Rwanda,
ah oui, ouais,
voilà, le Maroc, un peu de tout.
On a vraiment plusieurs nations du continent qui seront réunies ce soir.
Ah oui, oui, voilà, il y aura plusieurs nations réunies et puis aussi il y aura des artistes qui feront des prestations.
Mm-hmm.
Voilà, il y aura des remises de prix, donc de différentes catégories qui seront aussi remises à des personnages publics du showbiz. Hein.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les catégories?
Comment?
Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les catégories, justement?
Oui, alors il y a les catégories de meilleurs influenceurs, du meilleur promoteur, la catégorie du meilleur artiste révélation. Il y a beaucoup de surprises.
Effectivement, je vois que c'est un événement qui est pluridisciplinaire. On parle d'influenceurs, de mode, de musique, etc. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de représenter plusieurs disciplines?
Tout simplement parce que c'est pour reconnaître en fait le travail de tout un chacun.
Mmh.
Voilà, de valoriser et aussi la reconnaissance. Voilà, parce que là vraiment on parle en termes de reconnaissance. Mais lorsque le travail bien fait est fait, il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut le valoriser.
D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que toi, personnellement, tu décides justement de vouloir t'engager dans cette valorisation de la culture africaine ?
Tout simplement parce que je suis fière de l'être. Voilà. Tout simplement, je suis fière de l'être. Je suis, c'est vrai, moi, je suis franco-burkinabé, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je suis fière de mes origines, de ma culture. Et j'invite en fait tous les mélomanes et tous ceux qui m'écoutent actuellement de faire pareil, parce que notre première richesse, c'est de là où on vient, en fait. Voilà.
C'est ça.
Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas, en fait, être complexé. Je dirais surtout complexé. Il faut être fier de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Voilà. Et il faut le mettre en avant. Il faut le valoriser. Donc, c'est pourquoi... moi, Vicky Vela, je suis fière d'être du Burkina Faso, je suis fière d'être africaine, je suis fière voilà, du continent africain. Voilà. Ouais, et je pense que l'Afrique a encore beaucoup de travail et c'est ensemble, c'est étant unis que l'on doit valoriser ce continent et pas se, se marcher dessus.
Est-ce que tu vois d'ailleurs une évolution ou un changement un peu du mouvement dans la manière dont la nouvelle génération cherche à... Enfin, considère, on va dire, leur culture afrodescendante?
Oui, c'est vrai qu'il y a une différence. C'est vrai qu'il y a une différence par rapport à notre époque. Hein. Je ne dis pas que je suis vieille, que je suis trop jeune. Hein. Voilà. Mais oui, il y a une différence parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois la jeunesse... sur TikTok, même quand je vois voilà, la culture française aussi s'imprégner dedans, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau parce que tout commence en fait sur les réseaux. Lorsqu'on écoute une chanson, automatiquement, on voit qu'il y a une démo derrière qui arrive, mais même les Blancs s'y mettent. Ça fait plaisir. Donc je pense que ça serait bien. Voilà, moi, c'est mon souhait. Ça serait bien que le racisme, en fait, n'existe plus.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ce serait la fin d'énormément de problèmes s'il y avait justement une acceptation des différences culturelles et un partage. Je reprends encore le mot partage qui a été beaucoup dit avec la vice-présidente de l'association Battle Afro tout à l'heure. Mais le partage, c'est super important et c'est ce que vous faites aussi à travers cet événement de la Nuit de l'Excellence africaine.
Oui. Ouais. En tout cas, on espère que ce soit réussi, quoi.
Oui. Bah, en tout cas, on espère aussi. J'aimerais te remercier, Vicky Vela. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin pour nos auditeurs? Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Oui, sur Vicky Vela officiel sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Snap, un peu partout.
C'est super, merci beaucoup Vicky Vela et merci aussi de nous avoir partagé C'est l'argent de Alice Sexy La Lionne. Allez tous écouter, franchement c'est lourd. Merci, salut
merci Vicky. Merci beaucoup, merci Justine, à très bientôt, au revoir.
À très bientôt. C'était Vicky Vela qui est venue nous présenter la nuit de l'excellence africaine. Ça se déroulera donc vendredi 17 novembre à l'espace Venise à Sarcelles. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Kelly Boy, Contrebande et Issy Modesta d'être venus au studio. Merci à Badila Malonga, vice-présidente du Battle Pro, et à Vicky Vela de la Nuit de l'Excellence Africaine d'avoir partagé avec nous l'importance des événements qui font la promotion de la culture afro. Merci à Joey et à Gabriel pour la réalisation de l'émission. C'était Justine de The Beat, The Culture sur Radio Campus Paris. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous, surtout avec ce froid. À bientôt!